Et donc, hier, nous étions restés sur ce schéma hein, avec le modèle d'Abernathy Auerbach. Et ce que nous disions, bah, c'est que eh bien, vers le milieu des années 70, hein, on a un dominant design qui émerge, donc de façon simplifiée, hein, parce qu'il y a d'autres caractéristiques, ça ne résume pas à tout seul les caractéristiques clés d'une mémoire, hein, mais voilà, tout le monde va basculer sur du MOS avec multiplexage. Désolé. Je vous ai dit hier hein, que l'une des utilités de ce modèle d'Abernathy Utterback, c'était bah, que certaines entreprises pouvaient ne pas se rendre compte de façon aussi claire, parce qu'encore une fois, voilà, c'est pas un produit, c'est fait de multiples caractéristiques, et certaines vont se fixer assez vite, d'autres bah, se fixeront un peu plus tard, si bien qu'on ne peut pas dire très clairement, à partir de cette date-là précise, il y a un dominant design qui s'est imposé. Hein, c'est évidemment beaucoup plus flou que ça. Et du coup, bah, le risque, c'est de rester centré sur l'innovation radicale de produits, alors que la concurrence a basculé sur de l'innovation, enfin, beaucoup sur les procédés. Alors on l'a dit, hein, Intel historiquement n'est pas, enfin est plutôt une entreprise qui s'est préoccupée des procédés de fabrication. Hein, c'est pas, ils passent pas totalement à côté de ça, mais ils sont. Je suis en train de me poser la question. En train de me poser la question si ça on l'a pas vu. Tout d'un coup j'ai un doute. N'hésitez pas à me dire si je suis en train de comment dire, de répéter la fin du cours d'hier. J'ai un doute tout d'un coup. C'est un exemple que je donne aussi avec d'autres groupes, donc des fois je peux avoir l'impression d'avoir fait alors que je n'ai pas fait ou l'inverse. Puis habituellement, quand il y a plus d'espace entre nos cours, bah, je vérifie avec la vidéo. La fin du cours, là, j'avais l'impression d'être absolument sûr de moi sur là où on en était. Bref. Donc, comme je vois pas de réaction, je considère qu'on ne l'avait pas fait et que je confonds avec un autre groupe. Donc, eux, ils vont continuer à beaucoup investir dans l'innovation de produits et des innovations de produits assez significatives. Donc, par exemple, lancement de mémoire, on ajoute une colonne supplémentaire de données pour pouvoir les sauver en quelque sorte de la mise au rebut en réactivant une colonne quand il y en a une qui est défectueuse dans la mémoire. Et puis, voilà. Ils poursuivent, donc ça reste une entreprise très innovante, mais notamment sur le côté produit. Et pendant ce temps-là, les concurrents japonais, eux, vont vraiment se concentrer sur les procédés de fabrication. L'un des résultats, c'est qu'ils vont diminuer beaucoup le taux de mise au rebut des produits, de sorte que finalement, pour eux, le produit avec redondance, bah, ça n'est pas d'une très grande utilité, puisque eux ont des taux très faibles hein, de produits défectueux à côté d'Intel et de ses collègues américains. À la fois par la productivité et par la baisse du taux de rebut, eh bien, ça leur permet d'être très compétitifs en matière de prix. Et puis, ben, ils vont, eux, faire évoluer les produits aussi, mais en gardant la même structure. Simplement, ils vont faire ce qui est classique dans le monde des semi-conducteurs, hein, C'est-à-dire que régulièrement, quand il y a une nouvelle génération de machines, la machine va permettre de graver de plus en plus finement les composants semi-conducteurs et donc de pouvoir mettre plus de données sur la même surface. Et donc, ils vont introduire des mémoires de 16 kilobits en 76, 64 en 79 et 256 en 82. Alors, au-delà des chiffres, hein, qui ne sont pas évidemment ces données simplement à titre indicatif, au-delà des chiffres, vous pouvez constater qu'il y a un décalage entre le lancement par Intel d'une nouvelle génération de mémoire en termes de capacité et ses concurrents japonais. Vous voyez, au moment où Intel lance une mémoire 16 kilobits à source d'énergie unique, eh bien, les concurrents japonais, eux, basculent sur du 64 kilobits. De même, quand ils vont lancer leur mémoire de 64 kilobits avec redondance chez Intel, eh bien, à peu près au même moment, chez les concurrents japonais, on bascule sur des mémoires à 256 kilobits. Donc il y a ce décalage un petit peu qui fait que, paradoxalement, alors qu'ils innovent plus au niveau du produit, ils prennent aussi un peu de retard au niveau du produit parce que ce qu'attendent avant tout les fabricants d'ordinateurs ou d'autres produits utilisant des mémoires, c'est l'augmentation des capacités. Et alors, ça va avoir quelques conséquences un peu fâcheuses sur la part de marché d'Intel, puisque au début, ils sont donc très. C'est logique, hein, au tout début, ils sont tout seuls, donc au tout début, ils ont 100%. On voit qu'en 1974, ils sont encore très dominant. Après, il y a plein de concurrents qui arrivent, donc c'est pas illogique qu'ils perdent beaucoup de parts de marché, mais enfin, c'est quand même très rapide. Et puis après, on voit que finalement, leur part de marché se marginalise. Hein, donc c'est au passage un exemple de pionnier qui ne profite pas vraiment de ce fameux avantage du pionnier sur lequel on aura l'occasion de revenir plus tard. Alors, le chiffre d'affaires ne s'effondre pas, hein. Parce que la demande de mémoire vive en parallèle augmente, donc il n'y a pas le chiffre d'affaires dans les mémoires ne suit pas la courbe de la part de marché. Hein, on n'est pas sur un marché stable. Ce qui, expliquera sans doute en partie. La réaction un petit peu tardive des dirigeants d'Intel. Alors, en parallèle, il continue sur les microprocesseurs, mais finalement, sur les microprocesseurs, on n'est pas si loin à un moment donné du scénario des mémoires. C'est-à-dire qu'on est vraiment avec Intel qui se retrouve avec une part de marché. Pas négligeable, mais inférieur à 10%, plus proche de 5%. C'est lié au fait que son microprocesseur vedette, un petit peu, celui qui a notamment équipé le premier micro-ordinateur vendu à un petit peu, enfin à plusieurs milliers d'exemplaires, eh bien, à l'époque, et on y reviendra, Intel ne fait pas respecter ses brevets. Et du coup, il y a des clones du 8080 qui sont mis sur le marché et qui, alors, sont non seulement moins chers, mais pour certains d'entre eux, vont même être plus performants que le 8080. Donc, évidemment, ça fait. Ça rend Intel nettement plus. Ça fait perdre à Intel sa position de leader et technologique et en part de marché. Alors, ceci étant, Il se désespère pas. Au passage, petite illustration de ce que je disais tout à l'heure sur la finesse de gravure. Hein. Ça marche évidemment aussi pour les microprocesseurs. Et donc, ils utilisaient, alors, au tout début, sur le 4004, leur premier microprocesseur et leur première mémoire, ils utilisaient une gravure à 10 microns. Après, ils étaient passés à 6 microns. Et là, ils passent à 3 microns. Donc voilà, bon, à titre indicatif, c'est juste pour que vous voyez un petit peu la vitesse d'évolution. Et alors en 1978, ils vont là, quand même, du point de vue des performances, frapper un grand coup, reprendre un peu un leadership technologique en proposant un microprocesseur qui double le nombre de mots qu'il traite en même temps, si vous voulez, hein. Il va traiter 16 bits d'information d'un coup au lieu de 8. On voit qu'on multiplie quasiment par 5 le nombre de transistors. Au début, la fréquence d'horloge, hein, le nombre de cycles par seconde que fait le microprocesseur, est le même que celui du 8085, mais son vrai, le 8085, je sais plus à. Je crois qu'il sert surtout dans des distributeurs. Enfin bref, il ne sert pas dans des ordinateurs. Hein, donc il est un peu à part. Je le mets juste pour montrer qu'il y a quand même des choses qui se sont faites entre 74 et 78. Alors que si j'avais mis directement le 80-86, ça aurait pu donner l'impression que Intel a flotté dans l'intervalle. Mais on voit que par rapport aux 2 MHz du 80-80, il y a aussi un saut. Et du coup, d'ailleurs, au total, en nombre d'instructions par seconde, c'est pratiquement x10. Hein. Entre le 80-80 et le 80-86. Donc, c'est pas un petit gain de performance marginal. Et puis, en 1979, vous allez voir que ça a son importance, ils vont sortir une sorte de version bridée du 80-86, c'est-à-dire que c'est exactement le 80-86, sauf que les circuits de branchement externe, qui permettent de brancher sur le bus de données, ne sont plus en 16 bits, mais en 8 bits. Et donc, il est vendu moins cher, que du coup, ça le rend un peu moins performant en termes d'échange de données. Voilà un petit peu la situation en 1980. Elle n'est pas très, très favorable, hein, ni sur les mémoires, ni sur les microprocesseurs. Donc finalement, s'il n'y avait pas eu un certain choix, une certaine décision, peut-être qu'Intel n'existerait plus aujourd'hui, et aurait disparu au milieu des années 80, par exemple. Mais évidemment, vous savez que Intel n'a pas disparu, ça ne vous a pas échappé, et donc il y a eu quelque chose qui a redressé un petit peu les choses. En 1980, donc, IBM décide de se lancer sur le marché de la micro-informatique. Ils voient que les volumes vendus commencent à atteindre des centaines de milliers d'exemplaires. Donc, ils se disent, c'est peut-être risqué de rester à côté d'un marché comme ça. Ils savent que si jamais ils utilisent leur processus habituel de développement, leur micro-ordinateur arrivera trop tard. Parce que en général, ils développent tout eux-mêmes, enfin toutes les parties stratégiques d'un ordinateur. Donc, ils développent leur propre processeur, ils développent leur propre circuit, bus de données, etc. Et ils développent leur propre système d'exploitation et généralement un certain nombre d'applications de base qui permettent d'avoir une bibliothèque de logiciels dès le lancement d'un ordinateur. Et donc, évidemment, ça demande des investissements très lourds et ça peut demander du temps, puisqu'il faut en plus de la coordination entre ceux qui font, qui conçoivent les bus, par exemple, et ceux qui conçoivent le microprocesseur. Alors, ils disent, bah non, on va en quelque sorte passer en mode start-up. On n'aurait pas utilisé ces termes-là à l'époque, hein, mais c'est plutôt ce à quoi ça ressemble aujourd'hui. Ils vont prendre une douzaine, va prendre. Et ils vont confier à une douzaine d'ingénieurs la mission de développer un micro-ordinateur en un an. Alors, ils vont les sortir de la structure d'IBM, qui est assez bureaucratique, hein. Ils vont donc effectivement fonctionner en mode projet, petit effectif sur un an. Ils vont simplement rendre compte toutes les semaines des avancées, des principales décisions et les faire valider. Évidemment, qui dit on est 12 et on a un an pour pour concevoir un ordinateur, ça veut dire qu'on ne peut pas, à 12, concevoir un système d'exploitation, un microprocesseur et tous les circuits. Donc ça veut dire qu'ils vont s'appuyer sur des composants essentiels déjà existants. Alors par exemple, pour le système d'exploitation, à l'époque, l'acteur dominant, c'est Digital Research. Mais pour des raisons que je ne veux pas développer trop, mais qui sont notamment liées à des réticences de Digital Research pour signer la multitude de papiers de confidentialité d'IBM, ça va, le dialogue avec Digital Research va prendre du temps. Et entre-temps, il y a un jeune opportuniste, Bill Gates, qui avait une connaissance chez IBM, ce qui lui a permis d'accéder au bon contact, et qui avait racheté un système d'exploitation basique, pas basique le langage, hein, puisque c'était ce qu'il fournissait par ailleurs, mais qui avait repéré une petite entreprise qui avait conçu un système d'exploitation 16 bits, puisque du coup, pour bien exploiter les caractéristiques d'un microprocesseur 16 bits, il faut un système d'exploitation adapté. Et il le propose à IBM. Donc, voilà, c'est. Il fonctionne correctement, ils vont le compléter un peu eux-mêmes, hein, mais du coup, pour IBM, dans la situation où ils sont avec un an pour le créer, il vaut mieux avoir un système d'exploitation qui est pratiquement prêt là et dont ils sont sûrs qu'ils vont l'avoir à temps, plutôt que de se dire, bon, on va espérer que les négociations avec Digital Research aboutissent. Digital Research étant lui-même en train de concevoir un système d'exploitation 16 bits, mais il ne savait pas où ils en étaient. Donc bon, ça c'est le choix de Microsoft, ce n'est pas celui qui nous intéresse le plus, mais quand même, par rapport à ce que vous connaissez pour la suite, hein, c'est parce que Microsoft a été choisi pour le MS-DOS qu'après, ça va le mettre en position favorable pour imposer Windows. Hein, donc, vous voyez que ça a eu des conséquences relativement importantes pour la suite. Et puis, pour le microprocesseur, sachant que IBM, vous l'avez compris, puisque je l'ai dit pour le système d'exploitation, voulait entrer sur le marché avec un microprocesseur 16 bits. Hein. C'est le grand IBM qui rentrait sur le marché de la micro-informatique. Il fallait bien quand même qu'ils amènent quelque chose. Alors, ce n'était d'ailleurs pas les premiers à proposer un ordinateur 16 bits, mais bon, il y en avait peu et pour l'instant, ils n'avaient pas eu de succès. Donc, le monde de la micro-informatique fonctionnait en 8 bits à l'époque. Et donc, il y avait deux choix potentiels. Il y a le 8086 d'Intel qu'on a cité sur la slide d'avant. Et puis, il y avait un microprocesseur qui était plus performant. Qui était le Motorola 68000, qui, comme son nom l'indique, comportait par exemple 68 000 composants, contre 30 000 à peu près pour l'Intel 8086. Voilà, pour le reste, non, il avait d'autres aspects qui le rendaient plus performant également. Alors, logiquement, on aurait pu se dire. IBM, logiquement, devrait choisir le plus performant quand même, c'est IBM. Et en fait, ils vont choisir même pas le 8086, mais le 8088. Donc celui qui est encore moins performant que le 8086. Alors pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Certains ont évoqué la possibilité que ça vienne du fait qu'il y avait commencé à revenir au début des années 80 l'idée de machines qui étaient intermédiaires entre les mini-ordinateurs, ceux de la taille d'une armoire, et les micro-ordinateurs qui à l'époque étaient quand même très limités hein, en termes de puissance, et ce qu'on a appelé des stations de travail. Au début des années 80, il y a par exemple des stations de travail qui vont sortir avec des Motorola 68000. Donc le risque pour IBM, c'est de sortir un micro-ordinateur qui ferait de l'ombre à une éventuelle future gamme de stations de travail, et puis voire même un peu au bas de la gamme de ces mini-ordinateurs. Donc ils ne veulent pas cannibaliser leurs produits, donc ça a probablement joué. Autre point, après tout, ils veulent que leur ordinateur soit compétitif en matière de prix, même si ce ne sera pas du tout l'ordinateur le moins cher hein, de l'époque. Il est plutôt cher pour un micro-ordinateur, mais néanmoins, probablement que le prix. Donc l'Intel 8088 était moins cher que le 8086, qui lui-même était a priori, si on n'a pas le détail, hein, mais a priori probablement moins cher que le Motorola 68000. Et c'est probablement quand même la raison principale, c'est que je vous ai dit tout à l'heure que le monde de la micro-informatique fonctionnait en 8 bits, ce qui veut dire qu'il existait une multitude de circuits déjà disponibles en 8 bits. Par contre, en 16 bits, ça commençait seulement à émerger, et donc il y avait certains circuits qui n'existaient pas ou qui venaient juste d'être créés, d'être conçus, donc qui n'avaient jamais été testés. Or, il y a quand même une culture, une tradition chez IBM de fiabilité hein, de leur matériel. Donc, quand ils se fournissent à l'extérieur, enfin même quand ils le conçoivent eux-mêmes, ils testent beaucoup les matériels. Et donc là, ils préfèrent utiliser des choses qui sont un peu éprouvées. Alors d'ailleurs, ça a pu jouer aussi dans le choix de l'Intel 8088. C'est que le 8086 et le 8088 avaient déjà été embarqués dans de différentes machines, y compris d'ailleurs dans quelques ordinateurs. Et donc on avait déjà un historique, si vous voulez, et on connaissait leur fiabilité. Alors que le 68000 était plus récent et n'avait pas le même historique. On n'avait pas la même garantie de fiabilité. Enfin, il s'avérera tout à fait fiable d'ailleurs, hein, mais voilà, c'était prendre un tout petit peu plus de risques. Donc ça a probablement aussi joué. Mais le principal, c'est sûrement que ça leur permettait d'utiliser des circuits 8 bits pour l'ordinateur. Donc en fait, de proposer à la fois un ordinateur qui, au niveau de l'interne du microprocesseur, fonctionnait en 16 bits, mais qui, pour l'essentiel, était assez proche de ce qui se faisait à l'époque. Donc voilà une magnifique photo de l'IBM PC, donc qui sort en août 81. Alors, pour pouvoir avoir le marché, il faut qu'Intel accorde des licences à au moins un concurrent. C'est une règle chez IBM qui dit on ne peut pas dépendre d'un seul fournisseur pour un composant clé. Il faut absolument qu'on puisse mettre en concurrence, si besoin, des fournisseurs et en tout cas, en aucun cas, devenir dépendant d'un fournisseur externe. Ça ne va pas gêner beaucoup Intel, puisque Intel ne faisait pas respecter ses brevets sur les microprocesseurs, ni sur les mémoires d'ailleurs. Donc ça ne les changeait pas beaucoup, si vous voulez. Simplement, là, ils vont officialiser la situation. C'est-à-dire, ils vont formellement accorder des licences parce que IBM ne se contentera pas regardez, on ne fait jamais de procès, vous inquiétez pas. Donc le premier à qui ils vont accorder une licence à des conditions très avantageuses, puisqu'en gros, ça revient à un échange de technologies qui intègre les avancées sur 5 ans, sachant, et donc c'est à AMD. donc qui est encore aujourd'hui son seul d'ailleurs concurrent sur le marché du PC à proprement parler, au sens strict, du compatible PC. Et après, va accorder une licence à une douzaine d'autres concurrents. Alors probablement, à la fois pour pouvoir répondre à la demande, parce qu'on va le voir juste après, mais le PC est un succès, hein. Mais aussi peut-être stratégiquement pour se dire, je ne crée pas un deuxième fournisseur très puissant, je vais plutôt, moi, rester le leader technologique, parce que c'est moi la référence, du coup, hein, c'est moi. Intel qui a été choisi en premier, le 8088 a été conçu par Intel, donc il y a quand même un côté chef de file. Hein. Et par contre, après, je vais avoir plein d'autres fournisseurs, comme ça ils s'affaibliront mutuellement. Et je resterai. Donc il y a peut-être de ça. Ça, après, je n'ai pas de preuve, hein, c'est une supposition qui est réaliste, mais dont je ne peux pas affirmer qu'elle est vraie. Donc oui, ce que je disais à propos de la licence avec AMD, c'est qu'elle est très avantageuse puisque c'est un échange de technologies, sachant qu'Intel a beaucoup plus breveté plutôt en avance sur AMD à l'époque, sur les microprocesseurs. Donc en fait, c'est vraiment une façon de se dire, bon, IBM veut absolument un licencié, il m'en faut un rapidement, et pour que AMD accepte, on lui propose des solutions, des conditions très, très intéressantes. Donc ça, je l'ai dit, hein, ça devient l'entreprise de référence. Et l'IBM PC, c'est un succès rapide et après un très gros succès à partir notamment de l'année 83. C'est vraiment, ça augmente très très vite. Hein. Et là, du coup, le marché de la micro-informatique va se compter non plus en centaines de milliers, mais en millions d'ordinateurs vendus, y compris sur les seuls États-Unis. Alors, on laisse passer deux ou trois ans, hein, et Intel a confirmé sa position de chef de file, puisque en 1982, ils ont proposé un nouveau microprocesseur qui est compatible avec tous les jeux d'instruction du 8086, hein, qui était lui-même compatible avec le 8080 d'ailleurs. Mais qui est beaucoup plus puissant, vous voyez, 134 000 transistors au lieu de 30 000, et c'est un peu comme si on avait mis dans un seul transistor 4 8086, même si à l'époque c'est pas 4 cœurs, hein, comme on a aujourd'hui dans les microprocesseurs d'aujourd'hui, c'est pas vraiment 4 8086, mais pour avoir une image un petit peu de ce que ça représente. Pour les amateurs de technique, sachez que c'est le premier microprocesseur Intel à permettre l'utilisation de plusieurs logiciels en même temps. Mais ça ne va être exploité sur des PC que très longtemps après. Puisque le premier système multitâche côté PC, c'est Windows 95, qui, comme son nom l'indique, est sorti en 1995. Et donc, ça veut dire que techniquement, technologiquement, on pouvait faire ça avant, mais que voilà, le logiciel a beaucoup de retard sur le matériel. C'est assez fréquent. Et donc, ça veut dire concrètement que jusqu'à en 1995, vous ne pouviez pas ouvrir plusieurs logiciels en même temps sur votre ordinateur. Hein. Vous ne pouvez pas avoir Word et Excel ouverts en même temps. Le chiffre d'affaires dans les mémoires commence à s'infléchir un peu, hein, c'est pas tout ça, mais avec les pertes de parts de marché, à un moment donné, la croissance du marché finit par ne plus totalement compenser. Et à l'inverse, bah, du coup, le chiffre d'affaires dans les microprocesseurs augmente très très vite. En 1982, ça c'est symbolique. Symboliquement, c'est assez fort pour Intel, puisque il faut se souvenir que, à la base, Intel a été créé pour inventer la mémoire vive moderne. Donc, intrinsèquement, ils se sentent comme une entreprise de mémoire. Et de façon presque annexe, en tout cas culturellement, pas en termes de chiffres, hein, mais culturellement, ils ont une activité microprocesseur. Sauf que, bah, y a plus de chiffre d'affaires dans les microprocesseurs que dans les mémoires. Ce phénomène va être encore plus, enfin, de substitution du chiffre d'affaires des microprocesseurs à celui des mémoires va être encore accéléré de façon non volontaire. Ça aussi, c'est un cas assez intéressant. En fait, ils ont mis en place, bah, comme dans tous les systèmes de fabrication, vous avez des règles de priorité pour dire dans quel ordre vous faites les commandes. Parce que ce n'est pas toujours le plus intéressant du point de vue de la gestion de production, n'est pas toujours de les prendre dans l'ordre. Mais alors eux, c'est assez rare comme règle à ma connaissance, hein. C'est pas celle en tout cas qu'on enseigne habituellement dans les cours de gestion de production. J'ai fait ça dans mes jeunes années. Eux, ils avaient une règle qui était priorité aux commandes dont la marge brute est la plus élevée. Et ils avaient sept usines. Une était dédiée entièrement à la fabrication de mémoire et les six autres pouvaient faire l'un ou l'autre. Comme vous pouvez l'imaginer, entre un marché sur lequel ils étaient en concurrence frontale, notamment au niveau du prix, avec des concurrents japonais qui étaient en train de prendre très nettement le dessus, et un autre où ils sont chefs de file sur le plan technologique, où ils ont réussi à faire en sorte que... oui, alors je ne l'ai pas dit, mais en 1984, IBM va introduire ce qu'ils avaient appelé le PC-AT, Advanced Technology, et le PC-AT était équipé d'un 80286. Donc voilà, là... Nouvelle génération de microprocesseurs Intel est adoptée par IBM et les cloneurs de PC, puisque très vite le PC étant très peu protégé, il va être imité et certaines entreprises vont se mettre à concevoir 100% compatibles PC, donc souvent moins chers, hein. Et parmi eux, il y a Compaq. Dans les premiers, et Compaq va sortir à son tour un PC à base de 286 seulement 6 mois après IBM. Donc à partir de ce moment-là, bah, va y avoir plein de fabricants qui vont aussi proposer des PC à base de 286. Donc il se vend bien, et comme vous pouvez l'imaginer, c'est un microprocesseur qui a plus de marge que le 8088, qui lui-même a en général plus de marge que les commandes de mémoire. Et donc, bah, non seulement les commandes de mémoire devenaient un peu plus rares, mais en plus, quand il y en avait, eh bah, elles passaient après les commandes de microprocesseurs. Quand on avait le temps, bon, je caricature un peu, mais, surtout que ça devait être sûrement quand même un peu modulé par des règles concernant le respect des délais, hein. Mais il n'empêche que la priorité était donnée aux commandes de microprocesseurs. Alors, J'allais dire assez curieusement, mais pas tant que ça, puisque encore une fois, hein, l'histoire des entreprises, ça compte, hein, et d'où elles viennent, pourquoi elles ont été créées, ça les suit longtemps, hein. Et après tout, à ce moment-là, l'entreprise a une quinzaine d'années, hein. C'est à la fois plus une start-up, mais en même temps, bah, il y a beaucoup des cadres dirigeants. Qui ont été là dans les toutes premières années de l'entreprise. Donc la culture d'origine de l'entreprise est toujours présente. Je crois qu'à ce moment-là, oui, c'est même sûr, puisqu'on va le voir juste après, Bob Noyce, le pr premier président d'Intel, a pris sa retraite. Et c'est son ancien numéro 2, Gordon Moore, qui a pris la tête d'Intel. Donc, bah, Gordon Moore, c'est un des fondateurs, vraiment, d'Intel. Et donc, c'est toujours lui qui est PDG. Donc, vous voyez le côté culture d'origine de l'entreprise est forcément toujours là. Et donc, elle se considère toujours, avant tout, comme une entreprise de mémoire. Alors, ils ne sont pas non plus. Enfin, ils ne sont pas idiots, hein. Ça ne veut pas dire évidemment qu'ils vont mettre toutes leurs ressources sur les mémoires et négliger le microprocesseur alors qu'ils dégagent des marges et du chiffre d'affaires, hein. Mais en fait, ils vont toujours accorder une part des ressources un peu disproportionnées aux mémoires. En gros, à ce moment-là, ce moment-là, c'est 83-84. Grosso modo, ils consacrent à peu près un tiers de leurs dépenses de R&D au microprocesseur, un tiers à la mémoire et un tiers à des projets qui alimentent les deux. Hein, puisque du coup, vous avez compris, dans les deux cas, on grave des éléments sur du silicone, on utilise les mêmes machines, etc. Donc il y a des points communs entre les deux. Le microprocesseur est beaucoup plus complexe en termes de conception de base, mais il y a des choses qui peuvent être mises en commun. D'ailleurs, on aura un exemple très concret. Mais voyez que alors que la majorité du chiffre d'affaires, et ça devient beaucoup plus net encore hein, en 83-84, ben finalement, il y a encore un tiers qui est de la R&D qui est consacré aux mémoires, alors même que en termes de produits, c'est un produit plus simple, et donc a priori, pour avoir un niveau d'avancement technique égal, a priori, on peut penser qu'il faut dépenser plus en R&D pour avoir des avancées fortes dans les microprocesseurs. Donc, vous voyez, il y a quand même un décalage assez net entre l'allocation des ressources, notamment en R&D, et puis le chiffre d'affaires. Et puis, on est à la fin de l'année 1984. Et là, il y a Andy Grove, qui est bah, à l'époque numéro 2, puis qui sera pendant très longtemps, qui sera un des PDG emblématiques d'Intel, et qui est là, lui aussi, quasiment, enfin, depuis le début, mais il n'est pas véritablement fondateur. C'est-à-dire, il est l'un des tout premiers à avoir été embauché par, je crois même que, je me demande, c'est pas le premier embauché par Gordon Moore et donc, mais il a un statut un peu différent, même si, comme il est là depuis le début, il était considéré comme un quasi-fondateur. Mais bon, un peu différent quand même. Mais néanmoins, en termes de culture, il a la même culture du point de vue d'Intel que Gordon Moore. Néanmoins, c'est lui qui va un peu mettre les pieds dans le plat. Et il raconte donc l'anecdote suivante dans son ouvrage que j'ai trouvé très intéressant pour ma part, qui s'appelle Seuls les paranoïaques survivent. C'est tout un programme. Et donc, il rapporte tel quel hein, le dialogue, J'avais lu le livre dans sa version traduite en français, donc du coup je mets directement le dialogue en français, puisqu'il est directement extrait du livre. Donc il va voir son PDG. Alors ils se connaissent bien, hein, du coup depuis 15 ans, il va y voir que les relations sont franches et directes, parce que je ne vous conseille pas forcément de dire à votre PDG, notamment... les jeunes diplômés de directement tenir ce genre de propos, puisque il va le voir et il lui dit, si nous nous faisions remercier, donc au sens licencié, hein, et que le conseil d'administration nommait un nouveau PDG, que ferait-il à ton avis? Donc voilà, ça c'est ce que je ne vous conseille pas forcément de faire dès votre premier jour dans une entreprise, hein, de demander au PDG s'il se faisait licencier et remplacer, qu'est-ce que ferait son remplaçant? Et ça montre qu'il y a un bon degré de confiance et de complicité entre les deux. Mais seulement, là où c'est très bien vu de la part d'Andy Grove, c'est qu'évidemment, Gordon Moore, il n'est pas... il connaît les chiffres, hein, et il voit très bien comment évolue l'activité d'Intel. Il n'est pas, il a encore les... Enfin, il a les pieds sur terre, c'est un... Et donc, bah, il répond naturellement, il abandonnerait les mémoires. Et donc, Groove lui répond, pourquoi ne pas prendre la porte et le faire nous-mêmes? Donc, symboliquement, ils vont prendre leur petit carton, vous savez, comme dans les films américains, ils vont sortir du bureau comme s'ils venaient de se faire licencier. Et puis, bon, ils sont pas fous, ils vont y revenir sans demander l'avis des actionnaires qui, de toute façon, les auraient sans doute auraient refusé leur démission parce que c'est quand même, malgré tout, ils géraient plutôt bien l'entreprise qui faisait des bénéfices, hein, malgré ces difficultés dans les mémoires. Alors évidemment, entre le moment où on décide ça et le moment où on a une nouvelle entreprise sans les mémoires, bah ça prend un peu de temps. Et notamment, vous vous souvenez qu'une de leurs usines ne sait faire que des mémoires. Bah celle-là va être fermée. Donc ça va déclencher les premiers licenciements de l'histoire d'Intel. Et puis évidemment, hein, ça déclenche dans un premier temps une baisse de l'activité, puisque malgré tout, les mémoires bah, généraient de l'activité, même si c'était plus l'activité principale. Alors, quand je dis abandonner les mémoires, en fait, ça va être un petit peu plus. Ils vont abandonner les mémoires vives. Et ils vont continuer néanmoins à mener des recherches sur les mémoires réinscriptibles. Vous vous souvenez qu'ils ont aussi inventé les PROM, hein. Et c'est comme ça qu'ils vont inventer la mémoire flash. Mais néanmoins, voilà, les choses deviennent bien claires. C'est une activité tout à fait marginale, hein, les PROM. Et donc, quand on dit les mémoires, c'était avant tout les mémoires vives. Donc, bah, en 84, Intel, vous voyez qu'ils avaient bien grossi, hein, depuis la petite start-up de 1968. 25 000 salariés, 1,6 milliard de chiffre d'affaires et 198 millions de dollars de bénéfices. Donc, voilà, une société en bonne santé, qui néanmoins décide de se restructurer. Et quand je vous dis que c'est douloureux, en 1986, ça n'est plus que 18 200 salariés, il n'y a plus que 1,3 milliard de dollars de chiffre d'affaires, et elle fait à peu près l'équivalent de son bénéfice de 84, mais dans le rouge. Pour ceci dit, ce seront leurs dernières pertes avant très très longtemps. Puisque ben, il s'avère, alors c'est toujours facile après coup, hein, que c'était probablement une très bonne décision, hein, parce qu'on a du mal à voir avec les données dont on peut disposer comment Intel aurait pu reprendre l'avantage sur notamment ses concurrents japonais, puis plus tard ce sera taïwanais. Par contre, bah, vous savez qu'ils ne se sont pas trop mal tirés sur les microprocesseurs. Donc, d'ailleurs, pour bien marquer les choses, et moi je suis persuadé que ça a une double, que ce slogan, il avait un double objectif interne et externe. C'est habituer les clients au fait que maintenant, ils vendaient des microprocesseurs, c'était plus la peine de leur commander des mémoires. Une des craintes qu'avaient au passage les dirigeants d'Intel pour arrêter les mémoires, c'était qu'ils pensaient que leurs clients trouvaient commode de faire les commandes au même fournisseur, à la fois, puisque c'est les mêmes clients, hein, pour les microprocesseurs et les mémoires, ce qui s'avérera une crainte non fondée, mais là encore, c'est toujours facile après coup. Et donc je pense que c'est aussi pour affirmer les choses en interne, puisqu'encore une fois, culturellement, Intel se vivait encore 3 ans avant comme une entreprise de mémoire. Et puis bah, la voilà partie pour une longue période de croissance et ils ne sont pas prêts de refaire des pertes. Je suis en train de réfléchir, je crois qu'ils en ont fait quand même une année. Mais c'est pas souvent hein, qu'ils font des pertes. Alors là, ça va peut-être leur réarriver, vous verrez ça à la toute fin du cours. Et alors, c'est un exemple quelque part de stratégie dite émergente. La stratégie émergente, hein, c'est la partie de la stratégie qui n'était pas intentionnel au départ. Concrètement, généralement, quand on représente les choses, hein, on dit, ben voilà, les dirigeants ont décidé ça, ils voulaient ça, ils ont orienté l'entreprise dans cette direction-là, et puis ben, c'était pertinent ou pas, ça donnait des bons résultats ou pas, mais en tout cas, c'est lié à une intention stratégique. Ce que montre la réalité, hein, c'est que dans le cadre de la mise en œuvre d'une stratégie, il y a pratiquement toujours un certain nombre d'éléments qui vont être abandonnés en cours de route parce qu'ils vont s'avérer soit trop complexes à mettre en œuvre, soit inadaptés aux nouvelles conditions, puisqu'évidemment, que ce soit les conditions géopolitiques, économiques, technologiques, etc., bah, quand on lance comment dire, un plan stratégique à 5 ans, elle se fiche pas pendant 5 ans. Hein, et puis de la même façon, et il y a un certain nombre d'éléments qui vont émerger sans que ce soit les dirigeants qui l'aient impulsé. Alors ça peut être des initiatives de cadres supérieurs ou dirigeants dans les multidivisionnels, ça peut être une division par exemple hein, qui prend des initiatives et s'écarte un petit peu de l'orientation stratégique principale. En tout cas, il y a comme ça des éléments qui ne viennent pas des dirigeants et qui souvent après sont entérinés par les dirigeants. Hein, et c'est ce qui va faire que, en apparence, on va avoir l'impression que c'est le résultat d'une intention stratégique. Hein, parce que, après, dans les documents de communication, dans les discours, etc., les dirigeants vont très rarement dire: écoutez, moi, je n'avais pas vu ça venir. Si on avait suivi ma stratégie de départ, on serait probablement très mal aujourd'hui. Hein, on aurait tout concentré sur les mémoires et on aurait peut-être disparu. Mais heureusement, écoutez, bah, les choix d'IBM combinés à notre système de priorité dans les unités de fabrication, on fait que, eh bien, on a notre chiffre d'affaires et notre marge dans les microprocesseurs qui se sont gonflés beaucoup plus vite que le chiffre d'affaires plutôt en baisse dans les mémoires. Et donc du coup, bah, heureusement qu'il y a eu ça, hein, parce que si on avait suivi mes décisions, on serait mal. Donc, vous voyez bien que vous allez rarement entendre ça. Et du coup, les dirigeants, c'est plutôt courageux de Groove de reconnaître, mais c'est dans un livre qu'il a publié pratiquement 20 ans après cet épisode-là. Hein. Donc c'est plutôt courageux de reconnaître le fait que finalement, il y a eu un état de fait et qu'après, quelque part, ils n'ont fait que constater et entériner ce qui était presque évident, hein, d'où le dialogue, en prenant l'idée, si quelqu'un débarquait chez Intel sans avoir l'historique, qu'est-ce qu'il ferait? Bah, sur la vue des données récentes, il abandonnerait les mémoires. Alors, du coup, Intel mise tout sur le microprocesseur, ok, mais néanmoins, je rappelle qu'il a accordé plein de licences sur son 8088. Donc, le risque pour Intel, c'est de voir se reproduire ce qui s'est produit pour les mémoires, et puis ce qui s'est produit à un moment donné pour les microprocesseurs, puisque bah, le fait qu'il l'ait inventé et qu'il soit 53 ans après, toujours le leader mondial des microprocesseurs, peut laisser penser que, alors là, pour le coup, il y a eu un avantage du pionnier et que Intel a toujours été dominant. Mais on l'a vu tout à l'heure, hein, ce n'était pas du tout le cas. Et donc, ils sont pas passés si loin, finalement, de vivre à peu près la même chose sur le marché des microprocesseurs que sur celui des mémoires. Mais ils vont largement changer le. Enfin, ils vont voir le danger, bah, quand même. En même temps, ça leur est arrivé deux fois. Ça aurait été un peu grave que les dirigeants ne soient pas conscients. Et donc, ils vont tout faire pour maintenir leur position dominante. Donc, on l'a dit tout à l'heure, hein, ils ont accordé des licences, donc concrètement à une douzaine de concurrents. Mais alors, qu'est-ce qu'ils vont faire pour bah, les maintenir à distance? D'abord, bah, et c'est l'un des avantages de concentrer 100% de sa R&D au microprocesseur, hein, c'est que du coup, ils vont accélérer le rythme d'innovation produit. C'est vrai que le microprocesseur, c'est un produit qui va continuer à évoluer beaucoup plus vite. Même en termes d'architecture, que la mémoire, si bien qu'il y a des éléments de dominant design qui se. Et quand je vous ai dit que c'était flou, bah, on a un bel exemple ici. Il y a des éléments qui vont se figer, et puis il y a des éléments qui vont continuer à bouger. Donc, du coup, je ne pense pas qu'on puisse parler de dominant design, mais certains diraient si quand même. Mais le fait que le produit continue à évoluer et que ça a des conséquences très fortes sur ses performances fait qu'on ne se retrouve pas dans la même situation. Il faut certes être efficient en termes de procédés de fabrication, hein, mais encore une fois, Intel n'est pas nul dans le domaine. Ils sont moins bons que les Japonais, mais c'est pas du tout enfin, parmi les concurrents américains, par contre, il était l'un de ceux qui étaient probablement les meilleurs dans le domaine justement de la maîtrise de la fabrication. Et du coup, bah, le poids relatif au niveau concurrentiel, bah de la capacité à fabriquer de façon fiable et pas trop chère et du produit, bah, n'est pas la même que dans les mémoires. Alors évidemment, hein, je vous l'ai dit, ça fonctionne comme de ce point de vue-là, comme pour les mémoires, c'est-à-dire que l'un des facteurs principaux, ça va être la finesse des procédés de gravure. Et là où je vous ai dit tout à l'heure qu'il y aurait un exemple concret de la partie commune entre mémoire et microprocesseur en termes de R&D, c'est que en fait, ils avaient en projet avant d'abandonner une mémoire de 1 mégabit qui serait gravée à 1 micron. Donc ils avaient commencé à travailler sur de la gravure à 1 micron, sachant qu'en général, ils introduisaient une finesse de gravure donnée d'abord sur les mémoires. C'est ce qui explique aussi qu'ils avaient une usine consacrée aux mémoires. Parce que comme c'est un produit plus simple, on peut fiabiliser les procédés sur le produit relativement simple avant de passer à la fabrication d'un produit plus complexe. Et donc, bah, cette gravure à 1 micron, qui ne leur servira jamais, du coup, sur les mémoires vives, puisqu'ils l'abandonneront avant le lancement de leur mémoire à 1 mégabit, bah par contre, ils vont s'en servir sur le 80-386. Vous noterez la grande imagination dans les noms. Ceci dit, en même temps, c'est loin d'être idiot, hein, puisque en faisant ça, ils marquent des générations successives, hein, le 286 étant la deuxième génération, il y a eu un 80-186, mais il était un peu à part. Étant la deuxième génération de la lignée, puisqu'ils sont tous compatibles entre eux, hein. Enfin, les nouvelles générations sont compatibles avec les anciennes, évidemment, ça marche pas forcément dans l'autre sens, puisqu'ils introduisent souvent des nouvelles instructions. Donc le 286, c'est la deuxième génération, le 386, la troisième génération. Donc, c'est plutôt bien vu, en fait, hein, même si, comme ça fait toujours un peu sourire le côté. Donc, voilà, à titre indicatif, c'est cette fois 275 000 transistors. Il y en aura un à 12 MHz au tout début, mais en fait, véritablement commercialisé à grande échelle, ça démarre à 16 MHz. Donc, vous voyez que c'est au-dessus du 286. Et puis, alors, ils vont commencer à. Alors, ils l'avaient déjà fait un peu, hein, avec leur précédent. Le 286 était à 6 MHz au début, puis il y en a eu un à 8 MHz. Puis à 10, à 12, pas 10 d'ailleurs, 8, puis 12. Là, ils vont le faire davantage. Il va y avoir, de façon plus serrée. Hein, donc, il va y avoir 16, 20, 25, 33. Donc, ça permet d'avoir quelque part des nouveaux produits, même si la base est la même. Et puis surtout, c'est un. Je ne sais pas si je l'ai écrit parce que c'est derrière. Non, je ne l'ai pas écrit. C'est derrière les participants, la fin de la diapo. Surtout, c'est un microprocesseur 32 bits pour faire la liaison avec les précédents qui étaient des microprocesseurs 16 bits. En 1989, ils introduisent le 80486, hein, de son nom complet. Mais là, les gens en ont eu marre de dire 80, je pense. Tout le monde disait le 486. Et alors là, on dépasse le million de transistors. Au début, on est à 25 MHz. Alors, c'est là où Intel va souvent commencer. La fréquence d'horloge de ces nouvelles générations vont être inférieures au modèle le plus véloce, le plus performant de la génération d'avant pour qu'il y ait une moindre différence de performance et qu'il y ait du coup comme une continuité pour pas tout de suite faire chuter les ventes du microprocesseur d'avant, même si en l'occurrence au début le 486 était cher, hein, donc ça risquait pas, mais. Donc, évidemment, qui dit un rythme comme ça fait que c'est un peu plus difficile pour les concurrents de suivre parce que ils n'ont pas les mêmes capacités en R&D que Intel, et donc ils sont un peu condamnés à faire la course derrière. Vous voyez, AMD va sortir un AMD 386, je ne sais plus en quelle année, mais peut-être en 1988, vous voyez. Il va peut-être sortir un AMD 486 en 92. Je pourrais retrouver, hein, les dates réelles. Du coup, voilà, il court derrière. Et ça permet à Intel. Alors, s'ils avaient ralenti un peu le rythme, leurs concurrents auraient pu se mettre à leur hauteur. Peut-être qu'un jour, des fabricants de micro-ordinateurs auraient commencé sur une nouvelle génération. Enfin, peut-être qu'un jour, AMD aurait osé sortir un 586 avant qu'Intel ne sorte le 586, et que peut-être des fabricants d'ordinateurs auraient pris AMD, ce qui aurait fait que Intel aurait perdu son leadership technologique. Mais là, maintenant, ce rythme-là, ils obligent les concurrents à courir derrière, en gros. Et en même temps, ils vont affiner la stratégie marketing à plusieurs niveaux. D'abord, ils vont là vraiment, avec le 486, multiplier les versions intermédiaires. Ils vont un peu augmenter le nombre de transistors, mais ça, c'est un peu anecdotique. Mais surtout, alors je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais enfin, ils vont trouver un moyen pour déconnecter la fréquence interne du microprocesseur des circuits sur lesquels il est branché, ce qui leur permettra de faire augmenter considérablement la fréquence d'horloge du microprocesseur. Et donc, il y en aura 1 à 25, et puis après 1 à 33, 1 à 40, 1 à 50, 1 à 66, 1 à 75, 1 à 100. Donc, vous voyez que là, du coup, ça fait des sorties beaucoup plus régulières. Il va aussi un peu couper l'herbe sous le pied de ses concurrents qui proposent généralement des microprocesseurs compatibles moins chers. Donc il va sortir des microprocesseurs qu'il va appeler SX, hein, les principaux s'appelant DX, et qui sont des versions bridées. Par exemple, le 386 SX, la principale différence avec le 386 DX, vous n'aurez rien de tout ça à retenir, hein. C'est juste, voilà, j'essaye d'être précis, mais eh bien, c'était que c'était qu'il se branchait sur des circuits 16 bits. C'est un peu la même différence qu'entre le 8088 et le 8086. Le 486 SX n'avait pas de coprocesseur mathématique de calcul en virgule flottant, pour ceux qui connaissent, intégré, alors que le 486DX était le premier microprocesseur d'Intel à en avoir un intégré. Voilà. C'est en 91, ils commencent leur première campagne Intel Inside, alors qui est un phénomène assez intéressant, hein, parce qu'on peut se dire, ils vont jusqu'à communiquer auprès du consommateur final. Or, il y a très peu de consommateurs finaux qui achètent des microprocesseurs. Ça arrivait de manière, ça, je pense que ça arrive encore, mais de manière très marginale sur des personnes qui veulent, qui n'hésitent pas à ouvrir un ordinateur et à changer des éléments de l'ordinateur et qui veulent mettre à jour à un moment donné leur microprocesseur. Donc, il était possible d'acheter un microprocesseur à part et de le brancher sur une carte mère du moment qu'elle était compatible. Mais bon, vous vous doutez bien que c'est extrêmement marginal par rapport au nombre d'unités achetées par les fabricants d'ordinateurs. Donc, leur client, enfin, c'est une entreprise en B2B, hein, du coup, Intel. Et donc, on peut se demander pourquoi ils font des campagnes de publicité grand public, hein, jusqu'à la télévision. En fait, l'idée derrière, c'est une logique qu'on appelle parfois B2B2C. C'est que vous vous adressez aux clients de vos clients pour les inciter à demander de façon privilégiée vos produits. Et de cette façon-là, vos clients seront obligés de s'équiper chez vous, puisque ils vont avoir toute une partie de leur clientèle finale qui va dire, ah bah oui, mais moi je préfère avoir un microprocesseur Intel, je veux pas d'AMD. Et donc s'ils ont un nombre significatif de personnes, y compris donc des particuliers qui font ça, on voit bien que ça pousse les fabricants d'ordinateurs à toujours proposer des modèles Intel et à pas forcément proposer les modèles concurrents. La plupart des grands vont faire les deux, hein. Ils vont se fournir et chez Intel et chez AMD et parfois chez Cyrix. Mais certains ne vont se fournir que chez Intel, comme Dell, par exemple, hein, jusqu'à assez récemment, je crois, ils se fournissaient que chez Intel. Et puis même ceux qui achetaient aussi des modèles AMD, de toute façon, je pense qu'il y a très peu, à part des petits fabricants assez marginaux sur le marché, qui pouvaient se permettre de dire, non, moi, toute ma gamme, elle est faite avec des microprocesseurs AMD. Et ça, c'est l'un des résultats des campagnes de communication de type Intel Inside. Et puis, ils vont aussi adapter leur stratégie de propriété intellectuelle. On l'a dit, dans toute la première partie de leur vie, ils vont ne pas faire respecter leurs brevets. Donc, soit ils vont accorder des licences, souvent, le plus souvent gratuites, soit quand il n'y a pas de licence, ils vont juste laisser faire. Mais ils ne vont pas faire de procès à ceux qui utilisent leur technologie, du moment évidemment que c'est réciproque. Évidemment, hein, si jamais une entreprise les attaquait, ils utiliseraient leur brevet pour contre-attaquer. C'est d'ailleurs ce qui explique qu'ils aient continué à déposer beaucoup de brevets, alors même qu'ils ne les faisaient pas respecter. Hein, et ça, c'est un point qu'on avait vu, hein, quand on avait vu le schéma avec les rôles du brevet. Hein, on avait dit, des fois, les brevets, c'est aussi une monnaie d'échange et un moyen d'accéder aux technologies des concurrents. Mais alors, ces licences gratuites, elles ont eu un certain nombre d'avantages. Ça fournit des capacités de production. Souvenez-vous que dans les années, notamment en 1983, ça commence un peu en 82, je crois, mais en 83 et 84, le nombre de PC vendus explose littéralement. Ça passe de quelques centaines de milliers à, je sais plus, je crois que c'est plus de 5 millions rien qu'aux États-Unis. Donc derrière, il faut que les capacités de production suivent, hein, et c'est pas évident pour Intel. Et d'ailleurs, il y a dans un des rapports annuels d'Intel, il y a une petite phrase de Groove qui dit clairement, hein, qu'à ce moment-là, eh bien, il n'utilise pas ces termes-là, mais il affiche clairement le fait que c'est grâce aux licenciés d'Intel qu'il dit, certes, on crée des concurrents, on s'est créé des concurrents en faisant ça, mais ça nous a permis de répondre à la demande très très forte de microprocesseurs. Ce qui, du coup, va contribuer aussi à l'imposer comme standard. Parce que, vous voyez, imaginez que Intel et AMD, si Intel n'avait accordé une licence qu'à AMD, n'aient pas réussi à faire face à la demande. Du coup, il y aurait eu beaucoup d'entreprises un peu frustrées. Les délais de livraison des PC ou compatibles auraient augmenté. Et au moment où Apple va sortir son Macintosh, par exemple, il y aurait eu probablement beaucoup plus d'entreprises qui auraient basculé sur le Macintosh. Et du coup, il n'y aurait pas eu cette domination écrasante du PC par rapport au Mac. Et donc, des microprocesseurs de la lignée des dites X86, vous comprenez bien pourquoi, par rapport à la lignée des Motorola 68000. Donc, vous voyez que finalement, ça s'est avéré plutôt intéressant. Puis par ailleurs, certaines des entreprises sous licence vont aussi concevoir des produits complémentaires, notamment des coprocesseurs mathématiques. Puisque jusqu'au 486, il n'y a pas de coprocesseur intégré dans les microprocesseurs. Donc c'est une autre puce qu'on met à côté. Et certains vont, Intel en proposait, hein, mais certains vont en proposer des plus performants que ceux d'Intel. Et du coup, malgré tout, même si du coup ça lui fait de la concurrence, ça donne aussi de la valeur à son microprocesseur d'origine. Et puis, au milieu des années 80, il se passe deux choses. D'une part, quelque part, ça y est, le standard s'est imposé, hein, le PC représente probablement de l'ordre de 90% des ventes dans les entreprises, un peu moins chez les particuliers où il y a encore d'autres formes d'ordinateurs qui ont une meilleure capacité graphique et qui sont utilisées. Mais bon, globalement, ça y est, c'est fait quand même, hein. La série X86 domine clairement le marché. Et donc, du coup, la préoccupation, comme je l'ai dit sur la slide d'avant, n'est plus tant d'imposer le X86 comme un standard que de éviter de se faire doubler par des concurrents. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi un changement de dirigeant. C'est donc à ce moment-là que Gordon Moore prend sa retraite et que Andy Grove prend la suite. Sauf que Grove, il a toujours été contre cette stratégie d'ouverture de la propriété intellectuelle. Donc on se doute bien que quand il devient numéro un, une des premières choses qu'il fait, c'est de mettre fin à cette stratégie. Et donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils vont arrêter d'accorder, alors ils ne vont pas pouvoir revenir sur les licences qu'ils ont déjà accordées, hein, mais ils vont arrêter d'en accorder sur les nouvelles générations. Hein, donc sur le 286, il n'y en a eu que 4, au lieu de 12 sur le 80-86. Et puis sur le 386, il n'y en a plus qu'une seule, AIBM. Et très restrictive, puisqu'en fait, elle stipule que IBM peut fabriquer des 386, mais seulement pour ses propres besoins. Donc il ne peut pas les vendre à d'autres. Donc, Intel est le seul à proposer, dans un premier temps, ces microprocesseurs x86 de la troisième génération. Alors AMD, je vous l'ai dit tout à l'heure, va réussir à contourner En fait, il va faire deux choses. Il va faire un procès à Intel parce qu'il va considérer que c'était couvert par les 5 ans de perfectionnement. Donc, il va y avoir tout un débat sur est-ce que c'est un simple perfectionnement ou est-ce que, comme c'est une nouvelle génération 32 bits, etc., c'est quelque chose de différent. Finalement, la justice américaine donnera raison à AMD. Hein. Donc ça forcera Intel à lui accorder une licence, mais la justice est lente. Hein. Donc, il aura une licence en 94, ce qui est un peu tard. Heureusement, entre-temps, il a contourné les brevets d'Intel et a réussi à faire un compatible 386 tout seul. Mais avec retard, du coup. Hein. Ce n'est pas la même chose que si on vous accorde une licence que vous pouvez, après quelques mois de mise en route de la production, hop, aussitôt suivre le leader. Ils vont faire des procès. Alors, en utilisant par exemple le fait qu'ils vont soupçonner certains des cloneurs de leur microprocesseur d'utiliser aussi la partie logicielle. Or, formellement, dans le contrat de licence, il n'y a pas le logiciel. Donc, ils vont faire un procès à NEC, NEC, hein, le japonais. En plus, il y a probablement. Ils choisissent un japonais qui est un des japonais qui a remporté la bataille sur le marché des mémoires. À mon avis, il y a un peu de rancœur aussi. Ils l'ont pas choisi tout à fait par hasard en premier. Donc sur la base du microcode. Alors finalement, le tribunal va dire que ils peuvent pas prouver qu'ils ont copié le microcode. Donc ils vont pas donner raison à Intel. Par contre, en termes de jurisprudence, c'est important puisque le tribunal va confirmer que le microcode d'un microprocesseur est couvert par le droit d'auteur. Et donc, comme il y avait éventuellement un flou autour de ça, ça veut dire que les cloneurs qui auraient copié le microcode d'Intel, maintenant, doivent se dire, oula, alors pour les prochaines générations, non seulement il faut que je contourne les brevets puisqu'ils n'accordent plus de licence, mais alors en plus, il va falloir que je réécrive la partie logicielle du microprocesseur. Et puis, ils vont déposer des marques. Alors, ça, c'est aussi assez intéressant du point de vue des droits de propriété intellectuelle. En fait, ils vont essayer de faire respecter. Ils avaient déposé hein, les marques 8086, 8286, 386, 486, 586, 686. Ils avaient tout prévu. Comme AMD, Cirix, etc., enfin leurs concurrents de l'époque utilisaient les mêmes appellations, ils ont considéré que ils contrefaisaient leur marque. Et donc là, ça a été, ils ont fait un procès. Hein. Alors là, le tribunal a considéré que comme ils n'avaient pas fait respecter leur marque jusque-là. Du coup, c'était devenu un nom générique, c'est-à-dire que pour tout le monde, un 386, c'était un microprocesseur 32 bits qui avait un nombre de transistors à peu près comparable au 386 d'Intel, qui avait grosso modo les caractéristiques du 386 d'Intel et qui était compatible. Et que comme ça voulait dire ça pour tout le monde, c'était devenu un nom générique. Or, vous verrez ça dans le cours d'ingénierie juridique pour la start-up. Hein. Une marque, ça protège un signe distinctif. Et donc, quand une marque n'est plus un signe distinctif, on parle de dégénérescence de la marque, c'est-à-dire qu'elle perd le caractère de marque. Le cellophane, par exemple, c'est un exemple de ça. Et donc, ils perdent du coup toute la série des X86, et c'est pour ça qu'ils vont déposer la marque Pentium et la faire respecter dès le début. Donc à partir de ce moment-là, les microprocesseurs de ses concurrents ne pourront plus s'appeler des mêmes noms que les microprocesseurs d'Intel. Donc vous voyez, hein, ils jouent vraiment, c'est pour ça que moi ça m'avait intéressé dans mes recherches sur la propriété intellectuelle. Il n'y a pas que ça qui est intéressant, mais entre le côté j'ouvre puis je ferme, puis vous allez voir qu'après ils font vers quelque chose de plus équilibré, et le fait qu'ils mobilisent plusieurs types de droits de propriété intellectuelle en les combinant les uns avec les autres, ça fait un cas intéressant, propriété intellectuelle. Donc le but principal ici, c'est d'éliminer les cloneurs. Alors, ils ne vont pas tous les éliminer, mais il va y avoir quand même un sacré tri qui va être fait, puisque grosso modo, dans la première moitié des années 90, il n'y en a plus que deux. Il y a AMD et Cyrix. Et puis Cyrix, je ne sais pas exactement quelle année ils disparaissent, mais ils disparaissent aussi, un peu plus tard. Alors du coup, en 1995, ils se retrouvent face à une autre problématique. À ce moment-là, on le verra, mais le Macintosh est en perdition. Apple est en mauvaise posture. Et donc, plus que jamais, hein, le PC domine. Il y a tous les autres, les systèmes Commodore Amiga, Atari ST, etc. Il y avait d'autres ordinateurs, plutôt pour les particuliers, ont disparu. Donc il n'y a plus que des PC ou des Mac, et en gros le PC c'est plus de 95% des ventes. Donc non seulement la position dominante est très nette, mais en plus si jamais Apple arrête son Mac, enfin fait faillite, puisqu'à ce moment-là on peut l'envisager, eh bien, ils vont se retrouver, et qu'ils finissent par vraiment éliminer tous leurs cloneurs, ils vont se retrouver en situation de monopole. Et ça, une situation de monopole, vous savez bien que les autorités qui veillent à la concurrence, c'est ce qu'ils cherchent à tout prix à éviter. Et comme en plus, il y a des accusations de comportement parfois d'Intel, par exemple, à ce moment-là, ils rentrent sur le marché des cartes mères. Et comme par hasard, ils vont conquérir très vite une part de marché importante. On soupçonne qu'ils aient conditionné parfois le fait d'avoir la dernière version de leur microprocesseur, ce qui peut être un vrai atout pour un fabricant d'ordinateurs, au fait de se fournir chez eux sur les cartes mères. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui peut être considéré, et d'ailleurs je crois qu'Intel a été condamné à plusieurs reprises là-dessus, comme un abus de position dominante. Donc vous avez les autorités antitrust, surtout aux États-Unis, mais aussi en Europe, hein, qui commencent à regarder Intel avec beaucoup de suspicion et d'envisager un procès contre Intel. Et donc du coup, la problématique, elle est un peu particulière puisqu'il s'agit en partie de maintenir en vie un concurrent. Ça peut paraître assez original, hein, mais du coup, il faut sauver le soldat AMD parce que sinon, il risque de se retrouver tout seul. Encore une fois, côté Mac, ça va pas fort, donc on peut pas être sûr qu'il y aura encore des Mac dans 5 ans à ce moment-là. Et donc, ils peuvent vraiment se retrouver tout seuls. Puis de toute façon, même s'ils se retrouvaient tout seuls que sur le marché des PC, avec plus de 95% de part de marché, vous doutez bien que ils perdraient beaucoup de leur liberté vis-à-vis des autorités antitrust qui surveilleraient leurs prix, etc. Donc, il faut qu'AMD reste vivant. Et donc, ils vont re-signer un accord de licence croisée avec AMD. Toujours très avantageux, enfin même presque encore plus que celui de 1981, puisque entre-temps, Intel a vraiment augmenté énormément ses investissements en recherche et développement. Et donc a accentué son avance hein, de ce point de vue-là sur AMD, et donc le déséquilibre est encore plus patent. Ceci étant, ils vont introduire une petite clause qui était loin d'être négligeable, c'est qu'en échange, ils vont imposer à AMD le fait d'utiliser des connecteurs sur les cartes mères qui soient différents des siens. Et donc ça compliquera un peu les choses pour les fabricants de PC, puisque du coup, quand ils se fournissent chez AMD, ils doivent commander bah, des cartes mères compatibles, spécifiques pour AMD. Alors qu'avant, ils pouvaient utiliser la même carte et puis brancher indifféremment avec leur machine à un microprocesseur Intel ou AMD, hein, se connecter exactement de la même façon, exactement au même endroit, exactement. Donc c'était très facile sur une chaîne de fabrication de passer de l'un à l'autre. Là, à partir de là, ça devient plus compliqué. Et donc, bah, c'est assez astucieux parce qu'à la fois, ça les maintient en vie dans la course technologique AMD, puisqu'ils vont bénéficier de toutes les technologies Intel actuelle, et je crois de mémoire que c'était aussi pour 5 ans. Mais en même temps, bah, ils vont leur mettre un petit bâton dans les roues qui fait que ce sera difficile pour eux de prendre une trop grosse part de marché, parce qu'ils veulent un concurrent, mais ils veulent un concurrent minoritaire hein, quand même. Et ils sont pas. Ensuite, bah, ils vont, au niveau des licences autres, par ailleurs, ça va être beaucoup plus variable. C'est-à-dire que dans certains cas, ils vont ne pas accorder de licence pendant un certain temps pour avoir une exclusivité hein, sur leurs produits qui ne soit pas reproduite sur les autres, chez les autres. De temps en temps, il va accorder finalement une licence, mais par exemple au bout de 6 mois. 6 mois dans le monde des microprocesseurs, c'est beaucoup, hein. Et puis, dans certains cas, les licences vont être payantes. Et puis, dans d'autres cas, ils vont accorder des licences gratuites. Par exemple, à un moment donné, eux, ils avaient sorti un nouveau microprocesseur qui était plus rapide que ça arrivait souvent, hein, que sur le haut de gamme, ils aient une avance pour les raisons qu'on a déjà évoquées sur leurs concurrents. Mais finalement, le maillon faible dans les PC, c'était devenu non plus le microprocesseur, mais le bus de données qui reliait la carte mère et la carte graphique de mémoire. Et donc, bah, finalement, ça faisait que quand on équipait son ordinateur du tout nouveau microprocesseur Intel plus puissant que le reste, bah, le gain de performance n'était pas si évident aux yeux de l'utilisateur, pas parce que ça bloquait un peu au niveau du débit sur la vidéo. Et donc bah, ils vont créer un nouveau bus de données graphiques, hein, et celui-là, comme par hasard, ils vont accorder des licences gratuites à tout le monde, parce que leur intérêt, c'est que tout le monde adopte tout de suite, le plus vite possible, ce bus-là. Parce que quelque part, ce nouveau bus plus performant va donner de la valeur à leur microprocesseur haut de gamme. Donc vous voyez, c'est relativement fin comme stratégie. Et donc, bah là, on cherche un équilibre entre, d'un côté, bah, il ne faut pas qu'il y ait trop de différence entre Intel et ses concurrents, parce que sinon, il peut y avoir une sorte de bifurcation du standard qui fait qu'on se retrouverait avec deux types de PC pas compatibles les uns avec les autres. Donc ils veulent absolument garder l'avantage de l'homogénéité du standard, et en même temps ils veulent garder des possibilités de se différencier, et notamment sur les plus haut de gamme, les plus performants, bah, d'avoir toujours 1 ou 2 ans d'avance sur AMD. Voilà, donc désolé, ça fait long avant la pause, mais c'était plus logique de finir sur voilà, cette partie Intel et de faire la pause maintenant, en décalé. Et puis bah, après la pause, on démarrera un autre chapitre, en quelque sorte, où cette fois, on retrouvera Sony. On avait laissé après sa bataille perdue sur le Betamax. Donc, bah, à tout de suite.
Excusez-moi, monsieur, juste j'en profite pour vous poser une petite question avant la pause.
Allez-y.
Ça serait concernant les supports de cours. En fait, j'essaye de me remettre un petit peu à jour avec les différentes classes virtuelles, etc. Sauf qu'en fait, à chaque fois, je me remets à jour, sauf la dernière ou l'avant-dernière séance, ce qui fait que j'arrive en fait à votre cours sans avoir vu la séance d'avant et donc je n'ai pas toujours le fil conducteur. Donc, c'était juste pour savoir si ça serait possible éventuellement de publier les PowerPoint que vous avez, enfin le PDF que vous avez.
Alors, bah,